Osema, bonjour.
Bonjour.
Il y a eu un rassemblement à Montréal assez important de personnes qui se disent préoccupées par la situation en Syrie. Et j'entendais dans une vidéo que vous avez mise en ligne, lorsque vous avez filmé ces images de la manifestation, quelqu'un dire « c'est une révolution orpheline ».
Oui.
C'est un petit peu un message qu'il faut transmettre encore plus loin pour que les gens commencent à s'intéresser à ça. Il y a une tragédie humaine en ce moment en Syrie. Vous, comment vous parlez de ça avec vos amis? Certainement que les gens se sont pas, dire ça, souvent on doit en parler de ça.
Oh oui, tout à fait. Écoutez, on le vit de très loin. On les vit de loin. On aimerait être prêt, mais on ne sait pas comment. C'est-à-dire, oui, on a l'impression que cette révolution, je mets le mot révolution entre guillemets parce que ça a commencé ainsi, malheureusement, c'est tourné en autre chose aujourd'hui. Donc, on a l'impression que ces événements-là, bon, on les vit de loin parce qu'on est physiquement, géographiquement hors de la Syrie, hors du Moyen-Orient. Donc, on a beaucoup de douleur. Quand je dis « on », je parle de la communauté syrienne au Canada. On a énormément de douleurs, il y a beaucoup d'incompréhension. Et on a l'impression aussi que les gens, peut-être les Canadiens, les Canadiennes, ont pris une certaine distance par rapport à ces tragédies-là parce que, bon, il y a le groupe armé État islamique qui s'est emparé de cette cause-là. Et alors, il y a eu tout un amalgame, beaucoup d'incompréhension. Il y a eu des changements politiques qui sont succédés un après l'autre. Donc, je veux dire, les communs des mortels, peut-être les Canadiens et les Canadiennes n'ont peut-être pas suivi ça de trop près. Donc, ce qu'on voit, c'est des images atroces qui viennent de ce pays et en même temps une incompréhension. Donc, c'est sûr qu'étant syrienne, d'origine syrienne, je le vis très difficilement. J'ai toujours la famille là-bas et puis c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup parce que, bon, les lignes sont surveillées, etc. Mais en même temps, il y a une lassitude, une fatigue. Les gens sont effectivement très fatigués de ces images, de cette atrocité.
L'an dernier, Radio-Canada International préparait un dossier spécial sur le web sur la question des réfugiés. Puis on a eu l'occasion de parler de la situation des réfugiés syriens en rappelant que malgré les promesses faites, je pense qu'on parlait de 6 000, le Canada voulait accueillir 6 000 Syriens, moi je me souviens de ça, là, c'était pas fait.
Ouais.
Cette année, bon, je sais pas combien il y a de jours, enfin, début février, fin février, le gouvernement canadien annonce 10 000 Syriens.
Jusqu'à la fin, je pense, de 2016.
Ouais. Là, on a appelé les associations responsables d'essayer d'amener ces gens-là ici, tu sais, les organismes. Et c'est le ton, c'est du pessimisme, on ne sait pas par quel bout prendre ça. Ça pourrait prendre 40 mois pour une famille pour venir s'établir ici. On parle de conditions qui sortent de l'imagination.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on est sérieux cette fois-ci?
Mais écoutez, je l'espère. J'aimerais donner le bénéfice du doute au gouvernement Harper. Mais en même temps, il y a une certaine réticence par rapport à l'accueil de 10 000 réfugiés, ne serait-ce que même 500 réfugiés, parce que, écoutez, on parle des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vu des atrocités. On a une peur vis-à-vis, bon, les gens qui pourraient potentiellement développer des tendances extrémistes, parce qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu la violence. Donc, il y a aussi le fait qu'ils sont, il faut le dire, ils sont de culture musulmane, de religion musulmane, et ça aussi, ça fait peur, surtout dans un contexte d'islamophobie mondiale, et amener 10 000 réfugiés à majorité musulmane, encore là, dans un contexte de guerre, tout ça pourrait peser lourd, je veux dire, à la société d'accueil. Donc, j'aimerais savoir que ce n'est pas le cas. J'aimerais qu'on regarde ces réfugiés-là comme vraiment des victimes. Et encore là, je parlais avec un ami récemment, puis on parlait justement du fait que les gens ont moins tendance à donner de l'argent, à contribuer financièrement à des causes comme la cause des réfugiés, parce que les gens ont peur que cet argent-là soit détourné. Ils ont peur que... ils ont aussi un petit peu moins d'empathie vis-à-vis les tragédies de guerre. Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en Haïti, et aussi Katrina, il y a eu énormément de dons. Donc, on parle de millions, des millions de dollars.
Oui.
Il y a eu des télétons, il y a eu des artistes qui sont impliqués dans la cause, etc. Chose qu'on n'a pas vue pour la Syrie.
Mm-hmm.
Donc, oui, c'est une cause orpheline. C'est une cause orpheline. On a vraiment l'impression d'être abandonné par la communauté internationale, par nos frères et sœurs d'autres pays arabes aussi. Et ça peut poser lourd.
Ah oui.
Oui.
Ben on sait, moi, pour avoir un peu questionné gentiment, sans vouloir forcer les choses, mais je sais très bien qu'à Montréal, par exemple, on parle de communauté arabe, dans laquelle il se trouve, évidemment, il y a les gens de religion musulmane, mais la communication, le dialogue, c'est pas une chose assurée. On sait qu'il y en a qui font des efforts au niveau des structures pour essayer d'amener tous ces groupes-là à se parler, parce que des fois, on a des intérêts communs, mais on parle pas souvent de voix commune.
Non.
Puis dans ce dossier-ci, je pense que vous le soulignez, on a un cas là, clair, où s'il y a besoin de parler pour être entendu, ce serait celui-là. Comment vous naviguez comme journaliste? Parce que vous ne devez pas avoir de parti pris en principe. Vous devez essayer d'être là pour observer, puis de faire état d'une situation. Moi, je ne suis pas de ces communautés-là. C'est difficile de voir ce que je dois voir. Vous, qu'est-ce que vous, comment vous naviguez pour bien capter là, les nuances de ce qui se passe?
Mais c'est sûr que, par exemple, le camp pro-Assad est de plus en plus petit. Les gens ne se manifestent pas du tout.
Okay.
Alors qu'il y a peut-être 4 ans, c'était tout à fait le contraire. C'était les gens qui étaient pro, en fait, qui étaient anti-Assad, qui ne se manifestaient pas du tout.
Parce qu'on craignait pour les familles là-bas.
On craignait pour les familles là-bas, etc. Mais là, le silence a été brisé. Et ça a pris énormément de courage. Moi, je connais personnellement les premières personnes qui ont manifesté ouvertement, qui prenaient parti ouvertement contre le camp Assad. Et tout le monde, bon, les voyait d'un œil méfiant, mais en même temps, ça a pris un effet domino.
Okay.
Donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont pris la partie je ne vais pas dire l'opposition, finalement. Le parti opposition, bien qu'il n'y ait pas de parti opposition qui est bien structuré, mais on parle d'anti-Assad et pro-Assad. Comment, moi, je navigue tout ça? Je vous dirais, très franchement, avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Parce qu'écoutez, on est des êtres humains avant d'être journalistes, on est des êtres humains avant d'être les professionnels que nous sommes. Alors, de voir ces atrocités-là, ça me rejoint profondément parce que la Syrie est un pays que je connais très bien. J'ai vécu là une partie de mon enfance. Je suis revenue aussi à quelques reprises. J'ai fait aussi des reportages. D'ailleurs, le dernier reportage que j'avais de la Syrie, c'était en 2010. Et c'était un village... un village que j'avais visité, un village chrétien qui s'appelle Maaloula, un village qui est reconnu mondialement pour, mais non seulement pour d'avoir préservé la langue araméenne, la langue de Jésus, mais aussi un village où on trouve les musulmans et les chrétiens, un vivre ensemble qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas du tout ça. La révolution a été détournée, en fait. La révolution a été détournée.
Ah, ouais. Je trouve ça... j'ai entendu ce terme-là dans le cadre du printemps arabe. Imaginez-vous, l'autre jour, je posais des questions à un de ses spécialistes à l'université. Il m'a dit « Cette révolution a été détournée. » Au Québec, par exemple, on mentionnait le cas des femmes qui sont beaucoup intéressées à la révolution, mais c'est devenu d'abord la cause des femmes, et puis on a un peu oublié la cause d'un peuple qui tente de se libérer. C'est pas facile, quand on n'est pas de ce coin du monde, d'appuyer correctement, de pousser au bon endroit. Et je pense que le printemps arabe, est-ce que c'est pas un exemple également pour vous où il y a une petite déconnexion qui, des fois, risque de s'agrandir quand on tente de faire avancer les choses à distance?
Oui. Bien, en fait, parfois, on a l'impression que cette révolution-là ne nous appartienne pas parce qu'on ne vit pas là-bas, parce qu'on n'est pas dedans. Alors, il y a peut-être un détachement malgré nous. Mm-hmm. Ce n'est pas un détachement que je souhaite parce que je ne voudrais pas oublier. Si moi, j'oublie, les autres ne prendront pas cette cause-là à cœur non plus. Et je ne voudrais pas que non plus mes enfants oublient cette cause. Et pour moi, c'est très important de garder cette flamme. Moi, j'ai la photo de mon grand-père à la maison. Mon grand-père, qui est décédé il y a 30 ans. Je n'ai jamais connu. Plus que 30 ans. Et puis, je regarde souvent cette photo-là avec beaucoup de douleur parce que mon grand-père a vécu une Syrie qui est complètement différente. Et s'il était toujours vivant aujourd'hui puis qu'il verrait ce que la Syrie est devenue, Ça serait très difficile. Ah oui. Ça serait très difficile.
On n'aurait pas imaginé ça autrement.
Non, dit. Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est, je le dis avec beaucoup de douleur. J'ai beaucoup de douleur. Là, je parle, j'ai beaucoup de douleur. Ouais. Parce que c'est inexplicable. C'est, dans ma tête à moi, j'aimerais savoir que c'est juste un cauchemar. Que toutes ces atrocités-là, c'est finalement des images fabriquées. Mais on sait bien que ce n'est pas du tout le cas. C'est sûr qu'il y a une propagande. C'est sûr qu'il y a une... peut-être une certaine exagération, ça je ne sais pas.
Ouais.
Parce que bon, avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour fabriquer des médias, parfois c'est carrément de la fabrication, mais non, dans ce cas-là, c'est vraiment une tragédie humaine. Ouais.
Aidez-moi, vous avez parlé il y a quelques minutes, peut-être que les Canadiens ont un peu perdu le sens de tout ce qui se passe là-bas. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que bon, le groupe armé non islamique, s'il est.
Mais il est non islamique aussi. Là, je l'entends. C'est ouais, ni ouais. l'État ni, voilà. ni islamique ce qu'ils font, mais je comprends.
Ouais. Voilà. Quel beau lapsus. Ouais. En tout cas, c'est à peu près tout dont on se souvient. Puis on sait que le gouvernement du Canada va prolonger sa mission. Peut-être qu'on va aller maintenant faire la guerre dans le ciel de la Syrie avec l'approbation du reste du Parlement canadien. Enfin, c'est ce qui se dessine. C'est le prolongement d'une action. Canadienne, mm-hmm. dans cette région du monde. C'est à peu près tout ce qu'on sait de ce qui se passe maintenant. Comment on fait pour savoir dans les nuances ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un Canadien puis qu'on veut mieux comprendre, dépasser la manchette qu'on nous livre chaque jour maintenant?
Moi, je dirais tout simplement parler et discuter avec des Syro-Canadiens. Ils vont vous raconter leur histoire, ils vont vous raconter ce qu'eux vivent, ce qu'eux entendent. Et beaucoup d'entre eux, en fait, retournent à la Syrie parce que, bon, il y a certaines régions de la Syrie où c'est encore possible d'y avoir accès. Par exemple, Damas, mm-hmm. qui est, bon, la capitale. J'ai encore la famille là-bas. Et ça circule difficilement, mais en même temps, c'est pas ce qu'on voit à la télé, là. C'est la vie continue, disons. Okay. Les gens continuent à aller au travail, les gens continuent à aller à l'école, etc. Mais avec... avec beaucoup d'inquiétude, évidemment. Mais encore là, l'être humain s'adapte, même aux tragédies. C'est un peu triste à dire, mais en même temps, ça montre à quel point l'être humain est extraordinaire. On a cette volonté de vivre, de survivre. Et, c'est ce que le peuple syrien fait, il survit. Donc, aux Canadiens et aux Canadiennes qui souhaiteraient en connaître davantage sur cette tragédie-là humaine par-dessus tout, humaine avant d'être politique ou religieuse. Oui. Encore là, ça n'a rien à voir avec... c'est pas du tout un conflit religieux, bien qu'on le sous-entende ainsi, mais c'est pas du tout un conflit religieux. Mm-hmm. C'est un conflit géopolitique. Discuter avec les Syriens. Il y a beaucoup de personnes d'origine syrienne ici, à Montréal, ailleurs au Canada. Parler avec eux. Regarder comment eux vivent cette tragédie-là. Qu'est-ce qu'ils entendent de leur famille là-bas. Je pense que les histoires humaines... dépasse n'importe quel discours politique ou n'importe quelle volonté politique. Mm-hmm. Parce que d'abord et avant tout, on est des êtres humains.
Ben oui. Mm-hmm. Aussi platement que ça.
Aussi platement que ça, ouais, ouais. Tout à fait.